Chapitre 11e. Les billets de faire-part, imprimés sur papier épais, portaient en tête la croix. Qu'avait-elle à faire avec cette vie éteinte? Il portait, décédé avec les sacrements de l'Église. C'était faux, car le mort ne s'était jamais soucié d'eux. Il portait un De Profundis qui le réciterait. Madame le marié soupira en remettant dans l'enveloppe la première feuille qu'elle avait dépliée, et de son écriture appliquée, nette et anguleuse, elle traça une adresse, puis une autre, puis une troisième, silencieusement. Victor faisait de même. Ils consultaient un carnet ouvert entre eux. Nous n'envoyons bien entendu qu'aux gens du loin. Les pompes funèbres se chargent du reste. Mourieux y a passé, il a dit, toute la ville. Oui. Monsieur le général baron d'Espelette, commandant la 16e division, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un S à la fin? Non? Comme vous voudrez. Il pourra me servir, le général, quand je ferai mon stage d'officier de réserve en janvier. La demi-interrogation n'eut de réponse que le grincement de la plume voisine qui inscrivait « Monsieur Le Mansart, conseiller général ». « Vous invitez Le Mansart ? » ?»« Évidemment. » Il s'était présenté contre mon père. Mon père le détestait. Elle leva sur son fils un regard de reproche et dit, en se remettant à écrire, « Mon pauvre ami, je voudrais pouvoir inviter tous les ennemis de ton père et obtenir le pardon de quelques-uns moyennant une si petite attention. Une existence humaine confine à tant d'autres, surtout celle d'un chef d'industrie. On fait tort, souvent, sans le vouloir, on écrase. À ce compte, mère, il faudrait inviter les anciens ouvriers renvoyés, les congédiés pour cause d'installation de machines, les veuves non pensionnées. » Madame le marié posa la plume sur le bord de l'encrier de verre et dit, regardant devant elle, « Si tous ces pauvres récitaient seulement un Ave Maria pour ton père. » « Ah bien oui, ils ne savent plus. Je donnerais de bon cœur une partie de ma fortune pour l'obtenir. Les âmes des morts sont si lourdes quand elles n'ont pas ces ailes-là. Mon Victor, je suis heureuse au moins de me dire que tu ne te sépares pas de moi quand il s'agit de nos ouvriers. Moi, vois-tu, je les considère, ça a été une idée de toute ma vie, comme des sortes d'associés qui n'auraient pas de contrat. Ton père ne voyait pas ainsi, et il nous a laissé à tous deux un arriéré de charité à faire. Elle s'arrêta un peu, et comme la réponse ne venait pas, « Je n'aurais pas de plus grande joie que de m'acquitter, et toi ? Je suis sûr que tu y as songé, toi qui as tant de cœur. Donner, quel beau mot ! Ma foi, non, je n'ai pas... Mais tu ne refuses pas de m'aider, n'est-ce pas, dans le bien que je veux faire ? Sans doute, si vous le faites raisonnablement. » La mère demanda, affectueusement, avec un ton de prière à demi exaucé, « Voyons, mon Victor, explique-moi, qu'entends-tu par « raisonnablement » ?»« Par exemple... » Il réfléchit une seconde. « Par exemple, c'est Madio. J'admettrai que, vu les longs services de l'oncle, on étudia le moyen de lui accorder une petite pension. « Très bien, mon ami, c'est déjà fait. Comment ? Et si tu avais pu voir tout à l'heure la surprise, la joie de cette jeune fille ? En vérité, le remerciement dépassait le cadeau. C'était naïf, c'était... Pardon, vous donnez combien ? 500 francs par an. Sapristi, comme vous y allez. Voilà qui n'est pas raisonnable, déjà. » La mère répondit doucement pour ne pas froisser. « 30 ans de service, Victor. Moi qui me reprochais de n'avoir pas été assez généreuse. Mais tu comprends bien que ce sont là des charités nécessaires, presque des dettes. Avec une fortune comme la nôtre, sais-tu mon rêve ?» Le jeune homme, les sourcils froncés, tournait son porte-plume entre ses doigts et fixait obstinément l'encrier. « Mon rêve serait de doter une ou plusieurs grandes œuvres destinées à secourir des ouvriers d'usine et de métier. Quelles œuvres ? Je n'ai pas encore de décision, quoique j'aie des idées. Ensemble, nous y réfléchirions. Ensemble, nous arrêterions les plans, nous referions une réputation à ce nom de le marié, que plusieurs ont maudit. Enfin, je voudrais nous voir moins riches et plus aimés, mon enfant, veux-tu ? » Sans perdre de vue l'encrier, il répondit, avec cet air de supériorité que les hommes prennent vite dans les questions d'argent. « Mère, je propose que nous continuions nos adresses. Voilà qu'il est 3 heures et la poste n'attend pas. » Elle eut un petit sursaut de douleur, mais elle ne s'emporta pas. Il y avait l'avenir, tout l'avenir à sauvegarder. Elle dit tristement « Alors, ce que tu disais à ton père, je ne comprends plus, mon ami. » Il leva les mains. « Mais je le pense toujours. Seulement, nous serions naïfs en vérité. De nous ruiner seuls pour changer des choses qui sont la résultante de tout un état de société. C'est l'éducation qui est à changer, les esprits, que sais-je ?» Les mots tombèrent cette fois sans réponse. Madame Lemarié s'était remise à écrire, courbée sur les enveloppes à bandes noires. Elle avait jugé son fils, et il ressemblait beaucoup plus au père qu'elle ne le pensait. Avec lui aussi, il fallait recommencer à se taire. Victor l'avait essuyé une larme, plus d'une fois, pendant l'heure silencieuse qu'ils passèrent ensemble. Il arrivait toujours des couronnes par l'escalier de service. Quant au vieux Madiot, il exultait ce soir-là. 500 francs lui paraissaient la fortune. Il ne cessait de remercier Henriette, qui se défendait de tout mérite, que pour lui dire « Maintenant que c'est fait, ma petite, ne va pas trop dans ces maisons de riches. Mais, mon oncle, quand on m'y envoie ?» Il ne trouvait pas la réponse, ne pouvant pas donner la bonne, mais la joie l'emportait. Il était si content que sa nièce lui permît, et lui donnait des permissions maintenant, d'aller faire une tournée chez 3 ou 4 vieux comme lui, médaillés du Mexique ou de Crimée, dont il ne se souvenait plus que dans les grandes occasions.